Chambre Lumière.
Notre invité est un timide, il est aussi incontestablement intimidant. Son parcours au long cours est à l'image de son charisme impressionnant. Il semble que sa planche de salut soit d'y être montée sur les planches pour jouer avec les mots de Dostoïevski, Jean Genet, Roger Planchon, Tchekhov, entre autres, Strindberg, Molière, Maria Rilke, Duras, Racine, Pirandello. Et c'est probablement pour ne pas passer sa vie à n'être que l'ombre de lui-même qu'il se laissa glisser sous la lumière des projecteurs des plateaux de cinéma. Sur de grands écrans, il joua pour Alain René, Chantal Akerman, Claude Lelouch, Yves Boisset, Daniel Duval, Marco Ferreri, José Giovanni, Roger Hanin, Francis Giraud, Steven Spielberg, Bertrand Tavernier, Frédéric Schoendorfer ou encore et peut-être surtout Jacques Audiard. Son prénom est rare, tout comme l'homme qu'il est. En 1949, il fut le premier à le porter en France, puisqu'on vous dit qu'il est unique. Son autobiographie, Tous mes incendies, parue en 2001, débute par cette phrase pourtant sincère, ma vie n'est pas intéressante. Voici un personnage hors norme, en dehors des habitudes et conventions du système. Je n'aime pas parler de moi avec des gens que je ne connais pas, a-t-il confié à Libération il y a quelques années. Mais finalement, n'est-ce pas là une chose bien normale? Le contraire reste étrange et finalement peut-être si peu naturel. Dominique Besnard dit de lui, il a une sensibilité d'hypersensible, des antennes qui vous captent au premier regard. Il n'a pas peur de montrer sa féminité et ses douleurs. Il est si juste et sincère que ça le rend épatant. Lorsqu'en réponse à notre invitation, il nous a proposé de le rejoindre dans le sud de la France, où il répète actuellement, nous avons sauté dans un train en nous disant qu'il nous en aurait fallu bien plus pour passer à côté de cette rencontre.
Bonjour.
On va 21 rue de l'Opéra à Aix-en-Provence.
Pour un oui, pour un son. Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son, avec aujourd'hui Niels Harelstrup. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va, je suis un peu fatigué. Il fait très chaud à Aix-en-Provence. C'est lourd, mais je suis très content. Je répète la pièce de Duringer, Acting, sa dernière pièce. Et voilà, je suis heureux. J'ai lâché le truc, il faut pas dire. Je suis presque heureux.
C'est un problème d'être heureux, ou alors faut pas le dire.
Oh, c'est je sais pas s'il faut avoir une espèce de conscience particulière. Moi, j'ai du mal à saisir ce concept du bonheur et du mec heureux. C'est toujours, c'est des pourcentages, quoi. Là, disons que je suis assez heureux à 60-70%.
Ah oui, quand même, il reste un peu.
Pas mal. Ouais. 70, c'est déjà pas mal.
Donc, vous répétez, vous l'avez dit, Acting de Xavier Duringer, qu'on a croisé juste en arrivant, qui a été notre invité il y a quelques mois pour son premier roman. Vous allez être sur scène aux côtés de Can Meyrade et Patrick Bosseau, donc vous le jouerez ici, vous nous recevez au théâtre du Jeu de Paume.
Ouais.
Très vieux théâtre, 18e siècle.
1740.
À peu près 500 places, je crois, un tout petit peu moins.
Oui, dans ces heures-là, je crois.
Est-ce que c'est un moment que vous aimez les répétitions, le moment où on travaille sur le texte ou le placement, la mise en scène? Ça fait partie dans la vie d'une pièce de théâtre, d'un moment que vous vivez comment, vous?
Oui, plutôt, c'est plutôt agréable. On est dans une espèce de somnolence entre la vie qu'il y avait et puis la vie qu'il va y avoir. On est un petit peu comme ça, entre les deux. C'est cool, on peut rigoler, on peut s'amuser, on peut croire qu'on ne jouera jamais, on peut. C'était une espèce de chose. Et puis en même temps, c'est là que se crée l'essentiel, bien sûr. C'est très bizarre de voir se lever un texte, de se lever une pièce ou un spectacle. Ça se fait comme ça, graine après graine, petit morceau par petit morceau, un peu comme sans doute une forme de sculpture. Mais en fait, vous savez pas très bien la forme que tout ça va avoir. Et puis, voilà. Non, c'est agréable, les répétitions.
C'est un peu le calme avant la tempête?
Ouais, c'est un peu le calme avant la tempête, mais on est déjà en mer quand même. Hein.
Le vent se lève doucement.
Donc, ça peut vous prendre assez vite parce qu'il y a un truc très particulier qui est le trac, quoi, qui est la peur. Cette espèce de chose aussi, comme ça, un peu souterraine, et puis qui un jour, vous savez pas pourquoi, parfois 15 jours avant, parfois plus longtemps avant, parfois les tout derniers jours, vous saisit à la gorge, quoi. Voilà.
C'est la peur de décevoir.
Ouais, c'est
le trac, c'est ça.
C'est beaucoup la peur de décevoir. Ça dépend des individus, ça dépend des acteurs. Pour moi, je le formule comme ça, oui. C'est la peur de décevoir.
On va vous faire écouter des sons dans l'émission, c'est le principe.
Oui.
Le premier de ces sons, c'est une petite balade sonore dans une partie de votre filmographie.
Franchement, je pense pas que j'ai plus de plaisir à être dans le noir que le blanc, le gris que le vert, ou le bon que le mal. J'adore jouer. Je trouve que c'est intéressant de jouer. Je trouve que c'est un métier très 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 intéressant. Et plus la distance est grande entre ce que l'on croit être et ce que l'on interprète, plus le plaisir du jeu est grand.
Moteur.
Donc vous avez vu, c'est un colonel. La KGB lui a mis la main dessus dès l'université.
C'est devenu trop lourd pour moi. C'est une grosse opération. Elle a déjà un nom de code. Farewell. C'est remonté jusqu'à Mitterrand et Reagan.
Je peux changer le monde.
Cinq sur six, c'est pas mal.
Ben vous voyez, quand on est du bon côté du revolver, il n'y a pas besoin d'avoir peur.
J'ai pas peur, j'aime pas ça, c'est tout.
Rock, encore un carton, ça vous fera pas de mal.
Aussi Madame Girardi, violoniste, Monsieur et Madame Steg, mes parents, Mishka Mazelski, mon oncle. Alors vous êtes ici. À votre santé.
À vous surtout et à ce soir.
Nils Aristrup, dans De battre mon cœur s'est arrêté.
Dans ce film, il joue le rôle du père du personnage d'agent immobilier véreux incarné par Romain Duris.
Le César est attribué à Nils Aristrup.
Alors, comment on commence chez toi? Nom, prénom, âge, qualité, c'est ça?
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Tes gardes à vue commencent maintenant, commissaire.
Enlèvement et séquestration d'un commissaire de police, tu sais combien ça va chercher?
Je veux que tu me dises ce qu'il m'a balancé.
Ne t'inquiète pas, demain, je vais tout oublier.
Dites-moi, docteur, à quand peuvent remonter les premiers souvenirs?
Plus on devient vieux, plus le passé sera court.
Bonjour, je suis Verdi, section des disparus. La police française.
Je sais que vous pouvez cligner des yeux. Alors vous allez cligner une fois pour oui, deux fois pour non.
J'ai eu une attaque, je vais retrouver la parole, je vais retrouver la mémoire.
Ça va aller, monsieur Boubi, ça va aller.
Ça va aller. Il faut vous accrocher à l'humain qui est en vous.
Claude, c'est quoi ce bordel?
On en est où?
On a un petit problème un peu urgent, là. 4 millions d'habitants, tout prêt à exploser.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères danois vous attend.
Oh putain, c'est pas vrai! Le danois! Quelle connerie, ce métier!
C'est pas parce que t'es bon à rien que tu dois empêcher les autres de travailler, quand même!
T'arrêtes de me parler comme ça, t'as compris? Tu m'étouffes, tu m'asphyxies, tu mens, tu me méprises, tu m'humilies, tu passes ton temps à m'attendre au tournant, mais c'est pas ça, un père! T'es le contraire d'un père!
Ça va, ma chérie?
Ça va pas.
Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Hein.
Ouais. Excuse-moi si j'ai pas su.
Quoi?
Faire que tout le monde s'entende. Il m'a appris tellement de choses.
On change pas les gens, tu sais.
Si tu peux te balader partout dans la tôle, c'est parce que je t'ai fait nommer Oxy. Tu dis que t'as pas de maton, pauvre con. Hein. Et écrit partout Luciani sur ta gueule. Tu lui diras bête, tu es belle.
Parmi toutes celles qui vont périr, combien y a-t-il d'enfants qui ont l'âge des vôtres? Vous y avez réfléchi?
Laissez-vous! Je t'ai nommé à Paris pour rétablir l'ordre et j'ai l'intention de faire bien davantage.
Et que comptez-vous faire exactement?
Je les écraserai tous, vous m'entendez? Tous!
Or, c'est pour ça que je suis quelqu'un de gentil et je déteste la violence. Je hais la violence. Je ne supporte pas la violence. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un certain plaisir à jouer avec cette note-là.
Vous étiez concentré à l'écoute de ces sons de film?
Oui, 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 les neurones qui bougent. On se dit, qu'est-ce que c'est? Où tu es? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce défilé de souvenirs, de moments, de voix disparues, de voix présentes, choses lointaines, des choses proches. Ouais, c'est un train, c'est un TGV, là.
Beaucoup de wagons?
Ouais, beaucoup de wagons, ouais, beaucoup d'histoires. Évidemment, ça fait quand même... Ça va faire presque 50 ans que je roule dans le train. Donc, forcément,
avec des vitesses variables selon les époques.
Ouais, et puis des arrêts aussi, des arrêts en gare.
Vous avez reconnu à peu près
Pas mal de choses, pas tout de suite, mais ouais.
L'affaire Farwell, la femme flic, le pique-nique, je n'ai rien oublié. La dune, le scaphandre et le papillon, Quai d'Orsay, tu seras mon fils, diplomatie, 96 heures, le prophète. Ouais. Je crois qu'on a fait à peu près le tour.
Sûrement, peut-être.
Niels Harlestrup, vous êtes né en banlieue parisienne, à Bagnolet. Ça se trouve à l'est de Paris. Vos parents y étaient ouvriers. Dans votre autobiographie, vous parlez beaucoup d'ennui. Je m'ennuie beaucoup profondément et du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours ennuyé. Il y avait de ça dans l'enfance?
Oui, il y avait de ça. Enfant unique, c'est toujours un truc très particulier. Des parents âgés, ouvriers, mon père qui... appelait beaucoup au silence, à mon silence, parce qu'il était fatigué. Parce qu'il passait 8 heures dans l'usine avec les bruits de tôle et l'odeur de la graisse. Et quand il rentrait dans le petit pavillon où on habitait à côté de l'usine, il avait besoin de silence, de repos, de calme. Donc j'étais appelé à taire une partie de mon enfance. Quoi.
Et être invisible, si vous dites.
Oui, il fallait pas...
Comme si vous n'étiez pas là.
Fallait pas le déranger. Et je crois que j'aimais assez pour avoir envie de ne pas le déranger, même si je ne me rendais pas compte que je l'aimais.
Dans votre livre, vous racontez, il y a des moments de gaieté, il jouait avec vous, il vous racontait des magnifiques histoires de neige et de trolls. Et puis il y avait des moments plus violents. Et vous racontez un moment, un jour de violence, vous aviez 14 ans, vous résistez pour la première fois, et là vous dites, l'orgueil allait désormais tenir debout mon existence.
Oui, enfin ça allait être un des tuteurs, oui, l'orgueil. C'est un truc bizarre qui apporte des choses positives, mais qui est aussi peut-être très handicapant. Mais oui, c'est l'orgueil, c'est la première fois qu'on se relève, quoi. Qu'on se relève d'un coup et qu'on regarde l'autre et qu'on dit stop. C'est un peu ça, oui. Et je suis très soupoulé maintenant. J'aime pas qu'on m'engueule. J'aime pas qu'on me contrarie, j'aime pas qu'on m'emmerde. C'est pas si c'est de l'orgueil, c'est une forme de prétention aussi. C'est compliqué.
Pour un oui, pour un son.
Vous écoutez Pour un oui, pour un son. On continue dans un instant notre entretien avec Niels Harlestrup. Mais tout de suite, on marque une pause musicale avec Horace Andy. C'est la reprise du groupe America. C'est Horse with No Name sur la première.
On the first part of the journey, I was looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly above and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of a sound. A horse with no name. It was good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one who can give you the pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story
Paris, j'aime pas qu'on m'emmerde. C'est pas si c'est de l'orgueil, c'est une forme de prétention aussi. C'est compliqué.
Pour un oui, oui. Pour un son, pour un son.
Nims Harlestrup, un jour vous êtes devant la télé et vous tombez sur un reportage sur une femme qui va, si ce n'est changer votre vie, en tout cas peut-être lui donner un sens ou un nouveau sens.
Ouais.
Reportage sur un cours de théâtre.
C'est ça.
Et cette femme, c'est ?
Télévision, noir et blanc, 68, 69. Tania Balachova, qui est professeure d'art dramatique à Paris. Et il y avait un petit reportage, je crois, dans un journal télévisé sur son cours. Elle donnait des cours à la Gaîté Montparnasse et elle parlait en gros plan. C'était noir et blanc, mais ses yeux, qui, je le découvrais quelque temps après, étaient bleus pâles, très très pâles, étaient très impressionnants. C'est une femme qui parlait avec beaucoup de chaleur et beaucoup de tendresse de quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui était le théâtre, qui était le jeu, qui était tout ça. Moi, je vous dis, j'avais absolument rien à voir avec ce milieu. Et ouais, c'est un coup de séduction de cette femme. Là, je me suis dit, il faut que je la voie en couleur, il faut que je la voie en 3D, il faut que je la voie en vrai, quoi. Et donc j'ai été quelques semaines plus tard, sans doute à la Gaîté Montparnasse pour la voir.
Donc vous allez prendre des cours avec elle, et juste après votre premier passage sur scène. Déjà, vous ressentez ça en disant « on glisse de l'autre côté du miroir quand on est sur scène ». Première expérience, on est déjà loin, les mains se glacent, le front brûle, on est sur scène. Donc vous jouez devant elle et après votre première prestation, elle dit « je n'ai rien à dire de particulier, vous êtes un acteur comme l'étaient Michel Simon, Pierre Brasseur, Pierre Fresnay, vous n'y êtes pour rien, c'est ainsi. Si un peu de chance s'en mêle, vous jouerez de grands textes ». C'est pas rien ça, c'est...
Non, c'est pas
terriblement
rien.
Terriblement positif c'est... finalement ouais, comme
c'est
commentaire.
Sûr. C'est la première caresse de la vie. C'était le premier truc étonnant, quoi. Voilà, j'avais rien à voir avec tout ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce plateau cette première fois, parce que c'était quand même, je crois, vraiment la première fois. Une espèce de, je sais pas, de tranquillité. En même temps, bien sûr, la peur était déjà là, mais un très gros plaisir, une... C'est marrant quand vous pensez que vous avez trouvé votre coin, votre endroit, quoi. Je sais pas, j'avais cette sensation que
était votre place.
J'étais bien là, j'étais bien. Et elle a eu la gentillesse de dire ça, qu'on se rassure, dès la deuxième scène, elle a commencé à me sabrer, mais ça c'est normal et c'est bien. C'était une très très belle femme et un très grand professeur, Tania.
Et puis à une époque, vous avez une bande de copains un peu délinquants, vous racontez, vous voliez dans les magasins, le soir vous vous battiez, j'aime beaucoup l'expression, aussi souvent que l'alcool me le suggérait, vous avez écrit. Et puis 1968 est arrivé, vous dites 68 m'a autorisé à penser. Vous pensiez à quoi ouais. À l'époque, ça vous a autorisé à penser à quoi?
C'est-à-dire que ça m'a autorisé à penser parce que je ne pensais pas, enfin je ne pensais pas beaucoup. Il y avait dans la structure d'une existence de petit-fils d'ouvrier à Bagnolet, dans les usines Testu, qui étaient juste à côté, il y avait une chose normale, quoi. C'était, ton père a fait ça, mon grand-père était menuisier, mon père travaillait donc à l'usine. C'était prévu que j'y aille, quoi. C'était prévu que je fasse la même chose. Il m'avait réservé une place, il avait envie que je fasse ce travail, quoi. Je sais pas si on peut appeler ça un métier, mais en tout cas un travail dur, lourd. Et je trouvais ça normal. Puisque on m'avait jamais parlé d'autre chose. Donc, bien sûr, je vais rentrer dans l'usine où travaille mon père. Et 68 a tout arrêté. 68 a tout arrêté parce que les usines se sont arrêtées. Parce qu'il y a eu une espèce de grève. Il y a eu une espèce de grande vacance. Dans tous les sens du mot vacances. Voilà. Ou qui permettait aux gens qui suivaient le chemin, comme moi, d'un seul coup de regarder à droite ou à gauche, de s'interroger, de se poser des questions sur peut-être l'envie de faire autre chose. Je crois que s'il n'y avait pas 68, j'allais rentrer les mois d'après dans l'usine. Donc ouais, ça a été un coup de frein à une forme de passivité, quoi.
Vous avez fait beaucoup de rencontres dans votre carrière. L'une a joué un rôle particulier dans votre vie. Il s'agit de votre rencontre avec le comédien Roland Blanche. Il savait si bien décrire l'absurde des vies et de la sienne, écrivez-vous, parler des autres et de nous, de sa souffrance et des nôtres, avec tant d'humour, tant de clairvoyance, tout en lui exprimait cette haine, hormis son regard, éberlué de tendresse, d'amour, de générosité. Des yeux d'enfant toujours étonnés d'être là, en quête d'une douceur perdue dans un autre monde, Roland souffrait sans doute autant que moi, il faisait partie de ces incapables du bonheur, ceux qui n'y croient pas, qui savent que quelque chose ne va pas, que la vie n'existe pas.
Pour un oui ou pour un son.
J'ai toujours fait les ordures et je leur donne aucune chance aux ordures. Je le joue le mieux possible pour qu'ils n'aient aucune chance. Il n'y a pas de donner de chance aux ordures. Dans la question, j'ai fait le tortionnaire. Dans Tir Coupé, j'ai fait le violeur. Ici, j'ai fait le marchand d'esclaves. Voilà. Heureusement qu'au théâtre, de temps en temps, on me donne à jouer des grands textes, des personnages un peu moins laids. Mais c'est bien de participer. C'est une façon de voter. En choisissant des personnages comme ça, en choisissant de le faire, puisqu'on me les propose, c'est une façon de voter contre. Et plus je les défendrai merveilleusement bien, plus je voterai contre. J'espère que quelques Pékins en France ou ailleurs l'entendront et qu'ils n'auront pas envie de ressembler à ce genre de personnage.
Donald, je te donnerai tout ce que tu voudras. 100 000 en liquide. Si tu préfères, j'ai des donations monétaires à 6,25. Je peux les placer en obligation sur ton nom.
Je préfère t'enculer.
Roland était assez étonnant dans sa culture et dans sa manière d'être, d'agir, et son professionnalisme effrayé, je dirais. Une espèce d'angoisse toujours par rapport au métier.
L'eau et moi, c'est quand même deux choses très différentes. L'eau surtout, et parce que je mets rarement d'eau dans mes verres. Et j'ai découvert, puisque j'étais toujours, mon personnage est toujours sur un bateau qui s'appelle la Nantaise, les vieux Gréments, quoi. En plus, les bateaux, les vieux Gréments, c'est le théâtre, parce que toute la machinerie théâtrale, la toile de fond, c'est la grand voile, les pendrillons, ce sont les, je sais pas comment ça s'appelle, les phoques, le mois d'Artimon, le misaine, je ne sais pas quand, les termes techniques, les cordages, bon, n'en parlons pas. Toutes les superstitions théâtrales viennent des superstitions nautiques, des vieux Gréments. Et d'un seul coup, quand on était en plein tournage, je n'avais rien à foutre de la caméra.
L'arc devant. Les halles derrière.
L'arc allait derrière.
Soyez sages. Prépare ta bonbonne, chien marmite.
Oui, capitaine.
À déraventer.
Déraventer la grand voile.
Allez, gars.
Un homme formidable, à la fois un homme vrai avec tout ce que ça comporte d'âpre, de dur et à la fois d'une douceur et d'une intelligence et d'une infinie culture.
On entend un extrait du film Bernie d'Albert Dupontel, Bernard Giraudot qui rendait hommage à Roland Blanche et puis un extrait de la série télé Entre ciel et mer. Un mot rajouté sur Roland Blanche?
Non, c'est... Non.
Votre première pièce de théâtre, Nils Arlstrup, vous avez eu le rôle principal, c'était dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et ça s'est pas passé super bien, il y a eu une cinquantaine de représentations. Avec le recul, vous dites que vous aviez un jeu peut-être un peu trop cinématographique. Ça veut dire quoi? C'est le côté un peu trop intimiste peut-être?
Je sais pas, j'étais surtout quelqu'un de... Voilà, j'avais pas les épaules et j'avais pas l'expérience pour soutenir un...
C'était trop
un
gros
rôle pareil, quoi. Raskolnikov dans Crime et Châtiment, c'est énorme. J'avais 21 ans, je crois, quand j'ai 21, 22 ans. J'étais très, extrêmement timide. J'arrivais pas encore à oublier, parce que avec les années, j'ai commencé à pouvoir faire... Oublier un peu le fait qu'on vous regarde, oublier l'hyperconscience. Donc je jouais tout en regardant par terre et c'était vraiment pas terrible. C'était une expérience forte de commencer avec ça, oui.
Une autre expérience, la plus enrichissante, en tout cas vous avez écrit ça il y a une quinzaine d'années, c'était en 81, et la plus inoubliable, c'était la Cerise de Tchekhov, mise en scène par Peter Brook.
Oui.
Est-ce que c'est le fait que ce soit mis en scène par Peter Brook qui a rendu cette expérience aussi importante pour vous?
Il y est sans doute pour beaucoup, oui. C'est assez rare qu'il y ait plusieurs choses qui se mettent en place en même temps. Bon, Tchekhov, il est un texte extraordinaire, là, où la cerisait le théâtre des Bouffes du Nord, qui est un lieu très particulier, très spécial. Hein. C'est un théâtre brûlé, c'est un théâtre grillé, c'est un ancien music hall. La troupe, l'ambiance d'une troupe, voilà. On venait tous les matins, on faisait de la gymnastique ensemble, on faisait des impros ensemble, on rigolait ensemble, on avait peur ensemble. On était très très proches, on était tous dans une génération, enfin beaucoup d'entre nous dans une petite trentaine balbutiante là. Et puis le succès, et puis le public, et puis d'un seul coup le c'était un mini phénomène, mais c'était un vrai phénomène. Les gens venaient quoi, les gens était très touché par le travail qu'avait fait Peter, qui était un travail extrêmement simple, extrêmement dépouillé, comme la plupart des spectacles qu'il a tenté de faire, très respectueux de l'auteur, très respectueux de la langue, du rythme. Puis c'est Michel Piccoli, c'est voilà Natacha Paris, c'est Maurice Benichoux, c'est Claude Évrard, ce sont des voilà, c'est des amis de ce temps-là. Et donc quand tout se met en place et se coordonne, et voilà, ça devient inoubliable.
Autre moment où tout s'est mis en place, c'est quand vous avez joué Lettre à un jeune poème de Rilke. Là, vous dites « Jamais je n'ai ressenti une telle osmose, un tel partage avec le public. Nous étions unis dans l'écriture, plus intimement que je ne l'ai jamais été en scène ou dans ma vie. » Là aussi, c'est ça, c'est quand tout se construit de manière logique, cohérente, fluide.
Il est assez rare quand même qu'on ait la sensation d'être utile, quoi, de vraiment être à la source même, au cœur même de la fonction d'acteur, quoi. C'est-à-dire d'essayer d'apporter quelque chose aux gens, de les élever sans les abrutir, de leur proposer un texte magique. Une parole magique d'un homme disparu, des lettres froissées de Rainer Maria Rilke. J'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui découvraient ces lettres à un jeune poète en venant au spectacle, même s'il y avait les fans qui les connaissaient, mais beaucoup de gens les découvraient. Moi, je n'interprétais pas Rilke, j'essayais d'interpréter les lettres, le mot, parce qu'il disait à ce jeune officier Capus. Et tout ça est d'une intelligence, d'une sensibilité, d'une simplicité exceptionnelle. Donc oui, c'est un très très grand souvenir. Oui.
Nils Arlstrup est dans Pour un oui, pour un son aujourd'hui. Nous sommes toujours à Aix-en-Provence, au théâtre du Jeu de Paume. On va écouter tout de suite Alain Bachung, ou plutôt un hommage à Alain Bachung, La nuit je mens, par Mustang sur la première.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'enfer au fond des criques. J'ai fait la cour à les murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balaine, tu t'es pas fait prier. J'ai tes gants de crin, geyser, pour un peu je trempais. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes de mon peine des questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. Des trains à travers la plaine. La nuit je mens, effrontément.
illusion où subsiste encore ton ego, où subsiste encore ton ego.
Pour un oui,
pour un oui.
Bertrand Bichot.
Pour un son.
Alexandre Lemieux.
Pour un son.
C'est Nils Hallström dans Pour un oui, pour un son.
Nils Hallström, tout à l'heure on parlait de grands moments que vous avez vécu sur scène avec Peter Brook, avec le texte de Rilke. Il y a aussi des moments plus compliqués dans votre carrière, vous le racontez dans votre autobiographie. On vous a dit fini à plusieurs moments de votre parcours, à l'époque de Platonov, de Tchekhov. Vous le dites, vous n'aviez à l'époque plus d'argent, vous étiez gonflé par l'alcool, pour reprendre vos termes. Vous racontez aussi une anecdote de votre quatrième agent, vous refusez deux rôles qui ressemblaient trop à ce que vous faisiez beaucoup. Il le prend mal, il vous dit « les gens ne t'aiment pas, ils te trouvent prétentieux, arrogant, tu n'es pas porteur », mot pour mot. Comment on se relève de de ces moments-là?
Moi, ces moments-là, je me suis relevé parce que j'ai toujours été passionné par la transmission et donc toujours par l'enseignement. J'ai eu une école que j'ai dirigée pendant 10 ans qui s'appelait l'école du passage, et puis je fais des stages. Et à chaque fois que je me retrouve avec de jeunes gens et jeunes filles qui essayent de rentrer dans cette profession, de comprendre comment ça se passe, la construction d'un personnage, tout ça, c'est un bonheur immense. Et donc, il y a toujours eu ça dans ma vie. Il y a toujours eu cette fenêtre-là. Et donc, dans les moments extrêmement difficiles, comme en effet celui où cet agent me disait, il était plus dur que ça, puisqu'il disait, mais tu sais quel âge t'as? J'avais 50 ans à l'époque. C'est l'enseignement qui m'a tenu debout.
Alors vous dites des choses intéressantes sur l'enseignement. Pour vous, ce n'est pas transmission d'un apprentissage qui viendrait de l'extérieur à l'intérieur, mais vous dites que tout le monde a cette capacité à jouer, c'est plutôt apprendre aux gens à réveiller ce qu'ils ont à l'intérieur et à le faire sortir à l'extérieur.
C'est-à-dire que l'enseignement n'est pas théorique et n'est pas universel. Il y a pas une façon d'aborder tout ça. Il y a pas de règles, il y a pas de certitude. Donc il faut essayer quand on enseigne honnêtement de se mettre à l'écoute de l'individu qui est en face et d'essayer de l'aider à découvrir lui-même ses propres capacités et découvrir ce qu'il est. Pas essayer de le faire rentrer dans un moule fait de nos certitudes, parce que chacun a eu un parcours, une expérience, et c'est pas transmissible. Ce qui est transmissible, c'est l'accompagnement. On peut accompagner un élève qui a envie d'avancer en art dramatique. On peut l'accompagner, on peut bouger ensemble. On peut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui t'empêche d'aller. C'est quoi le truc là? Est-ce que c'est un voile? Est-ce que c'est une branche? C'est quoi? Et en l'accompagnant, mais le compagnonnage, c'est un mot pour moi extrêmement important, parce que c'est ce que j'attends d'un metteur en scène aussi, d'un réalisateur, d'un directeur d'acteur, c'est du compagnonnage. En l'accompagnant, je pense qu'on peut l'aider. Peut-être pas le former, c'est encore un mot difficile, mais l'aider, oui.
Donc être prof, c'est aussi aider les autres.
Oui, et puis c'est recevoir beaucoup soi-même, c'est beaucoup d'attention, on voyage ensemble. Moi, j'ai coutume de leur dire, jouer c'est une aventure, c'est pas un voyage organisé. Donc ça implique un certain nombre de choses. Soit tu prépares ton parcours et tu dis là il faut faire ça, là il faut faire ça, là il faut faire ça, là il faut faire ça. Soit tu sais, bien sûr, où tu vas, dans quelle situation tu es, mais tu t'ouvres à l'aventure. C'est-à-dire que chaque soir, à chaque moment, il peut y avoir une perception différente, un truc qui va t'emmener un petit peu ailleurs. Et c'est cette recherche de l'aventure et de l'inattendu qui, moi, m'intéresse dans ce métier.
Et dans cette école du passage, vous donniez aussi des cours de chant, des cours d'escrime, j'ai lu.
Mais pas moi, parce que je suis bien incapable de faire tout ça. Mais il y avait beaucoup d'enseignants, il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient de l'étranger, il y avait beaucoup de professeurs qui venaient, je sais pas, il y en a qui venaient d'Inde, il y en a un professeur qui venait de Corée. Il y avait des professeurs russes, bien sûr, américains. Enfin, j'essayais de faire qu'ils soient dans un mélange de gens contradictoires et qui trouvent leur propre chemin à l'intérieur de ça, plutôt que de les faire suivre par une seule personne qui, d'une manière ou d'une autre, commencerait à leur imposer ce qu'ils croient être la vérité.
L'un de vos premiers gros succès pour la télé, c'était Le Tourbillon des jours. Vous avez une gloire soudaine que vous définissez à l'époque comme populaire et étouffante. Vous vivez comment votre notoriété aujourd'hui? Vous avez quoi comme rapport avec?
Est-ce qu'on est vraiment honnête avec ça? Je sais pas.
Si vous étiez honnête, vous diriez quoi?
Il y a un côté, ouais, il y a un côté flatteur, ouais, bien sûr. Comme un môme, quoi, qui est reconnu d'une certaine façon, qui n'a pas fait tout ça pour rien, que. Donc je suis content d'une certaine manière, et d'un autre côté il reste quelque chose de mon enfance, de ce que j'étais, du mec timide, complexé, introverti, qui fait que quand on m'arrête dans la rue, parfois ça arrive quand même, rarement, mais bon, je suis gêné, quoi. J'aime pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'expression elle-même du jeu, mais tout ce qu'il y a autour, les interviews, les articles, les échos, tout ça, j'ai du mal avec. Je suis pas très à l'aise. C'est un métier magnifique, hein, vraiment, acteur. C'est une chance, c'est un privilège, c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est rien.
Oui, mais c'est pas grave, les gens peuvent vous aimer quand même et avoir envie de vous le dire dans la rue.
Mais bien sûr, mais je suis d'accord, ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je suis un peu gêné, quoi. C'est pas mon truc. Et puis, ça n'a pas une importance folle. Je déteste les selfies, les autographes, les machins comme ça.
Vous avez dit un jour, l'acteur est toujours un peu à la recherche de celui qui le cherche. Jacques Audiard fut certainement l'un de ceux qui vous a cherché un bon moment avant de vous trouver.
Le français Jacques Audiard reçoit la Palme d'Or pour Dipan, qui évoque le sort de migrants tamouls du Sri Lanka atterrissant dans une cité de la banlieue sud de Paris. Les acteurs sont trois inconnus.
Alors tu sors pour moi, tu rentres, mais t'es payé.
Tu parles avec les barbus, tu parles avec les corses, tu fais le grand écart.
C'est un film français qui parle tamoul. Alors ça, si c'est pas politique. Voilà, c'est un film français qui parle tamoul. C'est quand je sors dans la rue, on n'est pas tous comme on est. Vous voyez, c'est pas qu'on arrête avec ça j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu d'entre-soi. Vous voyez, qui parfois me fatigue. Ça me fatigue un peu parfois.
T'as déjà eu des problèmes dans la cour. Tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection? Il y a un mec qui t'a parlé. Tu le connais?
Pourquoi?
Si tu le tues pas, c'est moi qui le tue.
Audiard prophète dans son pays cette année. Le cinéaste français Jacques Audiard a remporté le titre suprême hier soir au Festival de Cannes. La Palme d'Or a été attribuée à son film Dipan, déjouant tous les pronostics sur la croisette. Une récompense inattendue pour le réalisateur.
Hop, c'est fini. C'est un film qui a été risqué, qui a été dangereux. J'ai senti, dans la façon de mener le récit. Et je suis très très surpris qu'à l'arrivée il y ait un film et que ce film soit regardé et apprécié. Je suis très, très très surpris.
C'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi. T'es un prophète ou quoi?
Tu restes à gigoter comme ça, t'as mal aux couilles ou quoi?
Non, mais tu devais pas me dire un truc.
Qu'est-ce que tu dirais si je me remariais?
Je la connais.
Putain, tu vas voir. Elle a dénibar et un cul.
Ça ira.
Oh, ça va.
Je trouve l'affaire, je la négocie, et à l'arrivée, je t'enfile la moitié. Mais tu prends pour un con ou quoi?
Pour moi, une des difficultés de faire du cinéma, c'est de m'intéresser 2 ans, 3 ans, 4 ans à un projet, à une chose. Il faut donc que cette chose-là soit, entre guillemets, un voyage.
Jacques Audiard, une rencontre forcément importante pour vous.
Oui. Oui, forcément important. Voilà, j'ai eu la chance de voyager avec lui deux fois et d'être justement dans ce que j'essayais de dire un peu avant, dans l'aventure. On sait jamais où ça va, on sait jamais où ça va aller.
Avec lui plus qu'avec les autres.
Oui.
Pendant le tournage.
Oui.
Qu'est-ce qui fait ça pourtant le il y a de l'improvisation, il y a parce que vous aviez le scénario, les dialogues. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une part d'inconnu?
C'est Jacques. Jacques est inconnu. Jacques est l'inconnu. Il est d'humeur très variée. Il est d'une exigence folle. Il vous pousse dans vos derniers retranchements. Il vous épuise. Il vous énerve. Il vous fait chier, comme on dit. Et on sait jamais comment il va prendre la scène, dans quel sens, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment. Je sais pas si par exemple dans une scène, je me souviens, j'étais en train de jouer avec des petites boulettes de pain, mais tout à fait inconsciemment, c'était dans De battre mon cœur s'est arrêté, il a construit la scène autour de ces boulettes de pain. Parce que au moment où je le faisais, ça l'a intéressé, ça l'a inspiré. C'est le seul réalisateur que j'ai rencontré moi dans ma vie, dans ma carrière, qui puisse venir sur un plateau à 8h30 du matin, s'asseoir sur un canapé, bourrer sa pipe et dire à toute l'équipe, vous savez, je ne sais absolument pas ce que je vais faire aujourd'hui, donc si quelqu'un a une idée, ça me rendrait service. Silence total, bien sûr, personne n'a une idée. Qu'est-ce que tu veux dire que je donne une idée à Audia? Et pourtant, c'est sincère. C'est une vraie démarche. Il est à l'écoute aussi des autres. Il aime beaucoup les acteurs. Je crois qu'on s'est fortement aimé. Et on s'est fortement engueulé.
Pourquoi vous en parlez au passé?
Ah, parce que je crois que Jacques est passé à autre chose, que c'est un homme qui a besoin de se renouveler. Autant au niveau des sujets, il cherche toujours des choses différentes, que je crois au niveau des acteurs avec qui il travaille. Je crois qu'il veut pas s'encrouter dans une espèce de famille, comme disait Gabin. Et donc je pense qu'il est parti un peu ailleurs, qu'il est dans un autre coin.
Oui, Dipane était très différent.
Mais De Rouille et d'Os était très différent.
Oui, c'est vrai.
Le prophète, regarde les hommes tombés, tout ça, c'est à chaque fois, il va ailleurs. Il le dit d'ailleurs un peu dans ce qu'il dit là. Il veut pas s'ennuyer, il veut pas rester encrouté dans des bouts de certitude. Et donc c'est pour moi un aventurier. Et évidemment, ce serait un immense bonheur de le retrouver, même pour quelques jours ou quelques heures, autour d'une idée ou autour d'une envie. Mais on a vécu très intensément ces deux aventures.
On va marquer une pause musicale, puis on se retrouve juste après. On va écouter The Company of Men avec The Echoes of Our Voices sur la première.
Agree, we never will agree. of our voices. Or the echoes of our voices.
Pour un oui. Pour un son.
Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.
C'est Nils Harestrup dans Pour un oui, pour un son.
Nils Harestrup, vous nous recevez à Aix-en-Provence. On est dans le théâtre sur lequel vous serez sur scène. Enfin, vous êtes sur scène tous les jours en répétition, mais vous allez jouer Acting de Xavier Duhinger. La pièce dans laquelle on se trouve ici, c'est quoi? La scène est où?
Parce qu'on est ce qu'on appelle un foyer, et la scène est un petit peu plus loin, sur la gauche, là, des escaliers qui descendent, et on est sur scène, et la salle, voilà, c'est le foyer.
C'est la dernière pièce avant la scène.
Ouais, c'est le foyer, ou qui a plus ou moins, qui vous offre plus ou moins la possibilité de vous retrouver avec les gens de l'équipe, avec la troupe, si vous n'avez pas trop peur, si vous n'êtes pas figé dans votre loge, où vous pouvez fumer une cigarette, boire un café, discuter.
Est-ce que, je crois que vous avez entendu dire un jour que la qualité du public pouvait influencer sur le jeu, sur la qualité du jeu? Il y a de ça,
oui,
au théâtre?
La qualité, c'est... je crois que parfois le public ne sait pas à quel point il peut orienter une représentation.
Orienter, quoi. En tout cas.
Oui. C'est pas une histoire de qualité. C'est que, voilà, il y a un rire qui va arriver à tel moment, il y a un silence qui va prendre une force à un moment qui n'était pas forcément le même qu'hier. Et on échange, on joue avec ça. Ça nous nourrit, ça nous perturbe. Ça, voilà.
Donc c'est plus interactif qu'on ne peut le penser.
Ah, c'est très interactif. Et on se pose vraiment la question. Et c'est pas une... Il est comment ce soir? Il est comment le public? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a, il a une grosse envie d'être là? Est-ce que finalement il se demande pas? Enfin bon, c'est comme si ça devenait un individu, quelqu'un qui est en face.
Vous avez été, vous avez reçu le César en 2006 du meilleur acteur dans un second rôle pour De battre mon cœur s'est arrêté. Même César en 2010 pour Un prophète. À nouveau en 2014 pour Quai d'Orsay. Vous avez été nommé trois fois pour le Molière du meilleur comédien. Les Molières dont vous dites, on renonce à l'éthique artistique minimale qui dit que l'art n'a pas de prix avec cette cérémonie. En effet, on compare ce qui ne devrait pas l'être, on se réjouit du désespoir des uns ou de la joie convenue des autres. Est-ce que ça fait quand même un peu plaisir, les prix? Est-ce que ça rassure tout de même un peu, ou ce n'est qu'un jeu un peu illusoire, tout ça?
Oui, je crois profondément qu'il y a des endroits où il est fort dommage d'engager toujours une compétition. Voilà, c'est une expression artistique, c'est comme la musique, c'est comme la peinture, c'est comme la sculpture.
Est-ce que ça fait plaisir quand même qu'on les reçoit?
Oui, bien sûr. Mais c'est pas forcément, ils sont chez moi, ils sont...
Cachés ou plutôt un peu exposés?
Pas exposés, non. Mais je ne les cache pas non plus dans une armoire, ils sont dans mon bureau, un étage... Mais je crois profondément que c'est idiot de vouloir comparer un peintre, je sais pas, Manet avec Cézanne ou Picasso ou Dali, toute proportion gardée, parce que je considère que sont des grands artistes. C'est pas du tout ça la question, mais pourquoi, quoi, je veux dire, il y a rien qui soit égal. C'est pas les Jeux Olympiques. On est dans des films différents, on a des rôles plus ou moins intéressants, ça a marché ou ça a pas marché. Donc tout ça est quand même voilà, organisé par la profession, ce sont des satisfactions de la profession. On est très très content, très touché de d'y être, et ça ne m'empêche pas à chaque fois de dire que c'est ridicule.
Je crois que vous ne votez pas
non.
aux élections. Ça vous intéresse
je
pas
Je vote ou... pas non plus au César.
Ah, vous devriez. Pour sauver tous
oui,
les films.
Je reçois, mais, non.
Mais en politique, c'est que ça ne vous intéresse pas, ou personne ne vous donne envie, je pense aux hommes politiques, de vous y intéresser, parce qu'en France, les mois à venir vont être relativement fatigants pour quelqu'un qui ne vote pas.
Très autour de ça, oui. Pourquoi je vote pas? Je sais pas, ça a commencé tout de suite quand j'ai eu l'âge de voter, je sais pas, 18 ans, 20 ans.
Dès que j'ai pu, je n'ai pas pu.
C'était loin, c'était... Je sais pas, ça me... Mais je payais pas mes impôts non plus. Enfin, j'étais à côté, marginal. Aujourd'hui, ce qui complique encore plus le truc, c'est que j'en ai rencontré des politiques, j'en ai croisé, j'en ai vu.
Vous en avez joué?
J'en ai joué. Voilà.
Ceci explique cela.
Non, mais je ne leur jette pas la pierre, mais voilà. Oui, ce sont des gens, quoi. Ce sont des hommes. Ce sont des gens qui font une carrière. C'est des gens qui font un boulot. Et voilà, ils font ce qu'ils peuvent dans le cadre de ce qu'ils peuvent, qui est quand même assez étroit. Mais c'est du business, quoi. J'arrive pas à y croire. Puis en plus, comme je suis acteur,
vous voyez,
j'ai du mal,
les comédiens.
J'ai du mal avec les mensonges ouverts comme ça, auxquels personne avec un minimum de sensibilité ne peut croire, quoi. Il n'y a rien que le ton, la façon de se tenir, tout ça. Donc il y a une impression de bidonnerie. Et puis ce qui m'a définitivement convaincu que c'était très bien de ne pas voter, c'est que j'ai été déjeuner à l'Assemblée nationale un jour. Et ça m'a stupéfait quand même, parce que on voit des mecs qui sont de gauche, de droite, du centre, des communistes, ceux qui bouffent ensemble à la même table. Ils se rassemblent par génération, ils se rassemblent par région, ils sont potes d'une manière incroyable, peu importe que tu sois socialiste, communiste, de gauche. Puis ensuite, comme nous, ils descendent au théâtre, quoi. Et le théâtre, c'est l'hémicycle. Et puis là, c'est parti dans le côté, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dingue. Enfin, ils font la même chose que nous, en plus mal. Avec des textes plus faibles, je trouve. Donc, non, je suis désolé, je sais que c'est pas bien de dire ça. C'est un mauvais citoyen. Je suis un mauvais citoyen. Je ne l'ai jamais voté.
Dans votre autobiographie, vous parlez de votre enfance et vous concluez un peu le sujet en disant finalement je ne fus ni heureux ni malheureux. De votre vie d'adulte aujourd'hui, vous diriez quoi? Alors on en parlait un tout petit peu en début d'entretien, on est à 70% je crois, mais plus généralement votre vie aujourd'hui.
Vous savez, c'est l'autre, c'est l'autre vie, c'est la personne qui vous accompagne. Moi j'ai la chance d'avoir une femme que j'aime, avec qui tout se passe bien. J'ai très récemment exposé une partie de ma santé en faisant des enfants. Voilà, j'ai deux petits jumeaux qui sont un grand bonheur. Dans ma solitude, je peux pas dire que je sois parfaitement content et parfaitement heureux, mais quand je les vois, eux, les enfants, ou quand je vois ma femme, voilà, ça me rend gai, ça me rend content, l'impression d'être vivant.
Pour un oui.
J'ai du mal à saisir ce concept du bonheur et du mec heureux. C'est toujours c'est des pourcentages, quoi. Là, disons que je suis assez heureux à 60-70%. 70, c'est déjà pas mal.
Pour un son.
Merci beaucoup pour cet entretien.
Mais merci à vous.
Trois questions pour terminer qu'on pose à chacun de nos invités. C'est pas complètement la fin. À quelle question répondez-vous toujours oui?
À quelle question je réponds toujours oui? Tu as faim?
À quelle question aimeriez-vous que l'on vous réponde toujours oui?
Tu viens.
Et quel est votre son préféré?
Le vent.
Merci Nils Harlestrup de nous avoir reçus et je rappelle que vous êtes actuellement en répétition de la pièce de Xavier Duranger qu'il met en scène, Acting, création au Jeu de Paume à Aix-en-Provence. Ce sera du 16 au 24 septembre et puis ensuite vous remontez à Paris et vous la jouerez à partir du 29 septembre au Théâtre des Bouffes Parisiens. Merci d'avoir écouté Pour un oui, pour un son. À la réalisation et au montage sonore, c'était Alexandre Lemierre. Merci à Yves Hélène pour la programmation musicale et à Dany Sulam qui a mis à jour tout au long de cet été notre page internet. Très bonne rentrée à tous et on se retrouve, on espère, très bientôt. Salut.